Session théologique par le Père Philippe à Saint-Jodard le 11 août 1988, conférence de l'après-midi.
Plus on avance, plus il y a de questions. C'est normal, mais je ne veux pas quand même m'arrêter trop longtemps. Parce que faut quand même regarder la recréation. C'est capital. Ne pourrait-on pas dire la femme est le symbole de l'homme? Je laisse quoi? Si je prends symbole au sens fort, je dis non. La femme est aimée pour elle-même. Donc dans une vision théologique, elle est aimée pour elle-même. Dieu l'a réalisée pour elle-même. Donc on ne peut pas dire qu'elle est symbole de l'homme. Puis symbole voudrait dire totalement relatif. L'homme serait la réalité. Et la femme serait ce qui manifeste cette réalité. Sauf que je vois poétiquement, on pourrait dire des choses comme ça, mais je ne crois pas que c'est juste philosophiquement et théologiquement. Pouvez-vous expliquer les deux arbres du milieu du jardin ? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Peut-on considérer que ces deux arbres ne sont qu'un arbre, l'arbre de la liberté ? Qui peut s'épanouir soit vers le ciel, c'est-à-dire l'arbre de la vie, annonçant le Christ, soit l'arbre se replier vers lui et se perdre comme principe du bien et du mal, d'où péché d'orgueil. Oui, je ne suis pas si mal, c'est même bien. L'arbre de vie, l'arbre du bien et du mal. Vous voyez, il faudrait regarder attentivement le contexte hein, pour bien comprendre ça. Parce que c'est quand même important, ce n'est pas rien. De tous les arbres du jardin, tu peux manger. C'est Yahvé Dieu qui donna cet ordre. De tous les arbres du jardin, tu peux manger. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Donc, c'est le précepte négatif qui, je crois, apparaît là en premier lieu. Il me semble bien. Donc c'est Dieu qui le regarde de cette manière. Puis vous avez le démon qui tente. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous voyez ? Donc, l'arbre du milieu, qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Donc, c'est bien évident que l'arbre qui est au milieu du jardin, ça fait partie de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est le même. Et l'arbre de la vie, c'est aussi le même. Je crois qu'il y a bien identité. Mais il y a en lui-même et ses effets. Je crois. que cet arbre exprime fondamentalement, d'une façon lointaine, comme ce qu'on retrouve dans le ciel. L'homme est fait pour la vision béatifique. Il est fait pour la vision béatifique en passant par la foi. En passant par l'obéissance. Et je crois que c'est ce télescopage, pas passer par la voie. Quand Jésus dit « Je suis la voie », alors est-ce que ce n'est pas ça qui est exprimé ? C'est que l'homme voudrait se précipiter. Parce que dire que c'est le Christ, je sais, les pères de l'Église ont facilement dit que c'est le Christ. Ça me gêne un tout petit peu, parce que c'est avant la faute. Dieu parle de cet arbre de vie avant la faute. Est-ce qu'on parle de l'incarnation avant la faute ? Je sais que c'est un ordre mythique, de sorte que c'est pas logique, de sorte qu'il n'y a rien d'impossible. Mais le démon se sert de cet arbre pour tenter, pour séduire, donc d'aller contre l'ordre de la sagesse de Dieu. Et cet arbre de vie, pour moi, je crois beaucoup plus que c'est Dieu qui se donne dans la vision béatifique, pleinement et totalement. Et qu'on voudrait voir tout de suite Dieu. Et alors, le démon, lui, présente la chose comme quelque chose qui donnera l'immortalité. Donc, messianisme temporel. C'est toujours la tentation du démon. Ce qui est promis comme un bien éternel, on se l'approprie pour sur la terre. C'est comme ça que je verrai la chose. Vous voyez ? Et que les pères de l'Église interprètent cet arbre de vie comme Jésus, parce que c'est vrai, Jésus sera à la fois la fin et le moyen. Et c'est ça qui est unique. Alors on peut se précipiter sur lui. Marie Magdala, on se précipite sur lui et en même temps la fin. Comment discerner dans l'écriture que le langage est symbolique ou non ? Par exemple, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les 144 000 dans l'Apocalypse. J'allais être Ross. Il suffit d'être intelligent. Vous voyez ce que je veux dire. Il faut connaître le mystère de Dieu autant qu'on le peut. Mais c'est là où la métaphysique aide. Je crois que la métaphysique, vous allez voir, Jésus dit qu'il parle tout le temps en parabole. La parabole, c'est quelque chose qui est entre le mythe et le symbole. L'évangile d'aujourd'hui. Faire comprendre ce que c'est que le pardon. Faire comprendre qu'il faut pardonner indéfiniment. Alors, cet exemple extraordinaire. Il pardonne, il enlève la dette, puis l'autre ne le fait pas. Alors, il reprend. Tout le monde comprend. Très facile. C'est une parabole. Est-ce que c'est un mythe ? Non. C'est une parabole. Quelle différence est-il entre le mythe et la parabole ? C'est que le mythe regarde plus l'origine. La parabole regarde un fait. Uniquement. Alors, il y a la parole. La parole utilitaire. Au marché, Madame, donnez-moi des carottes. Parlez-vous symboliquement ou parlez-vous, je ne dis pas sérieusement, mais de façon utilitaire. Madame, donnez-moi des carottes. Vous savez, quand vous ne savez pas une langue, quelquefois vous faites des impairs merveilleux comme ça. Parce que vous demandez quelque chose qui n'est pas du tout la carotte, qui est tout à fait autre chose. Et vous ne vous apercevez pas. Donc, le langage utilitaire, puis le langage symbolique. La carotte, peut-être symbolique. La betterave, peut-être symbolique. Vous savez bien, à Salzbourg, le palais épiscopal, vous voyez toujours l'écusson, la betterave. Oui, parce que, tout simplement, un évêque paysan, d'origine paysanne, est devenu évêque du temps où il n'y avait que l'aristocratie. Alors, quand il a été évêque et qu'il a été dans son palais épiscopal, il l'a flanqué partout. La betterave. C'est symbolique, ça. C'est évident. Moi, avec ces vicaires épiscopaux, ils voulaient l'arbre des betteraves à manger. Mais ce n'était pas ça, c'était le symbolisme de la betterave. C'est pour ça que très facilement, quand on ne connaît pas, on va regarder, ah, tiens, une betterave. Oui. Bien fait. Et quand vous connaissez l'histoire, vous dites, ah bon, très bien, on voit très bien ce que c'est que la betterave. C'est admirable, quoi. Comme chose, symbolisme. Donc, il faut distinguer. Alors, il y a la parole utilitaire, il y a la parole scientifique, il y a la parole philosophique. Quand je parle de substance, c'est pas utilitaire. Madame, donnez-moi une substance. Ah non, je veux dire une carotte. Non, c'est une substance. Que je veux prendre quelque chose de substantiel. Oui. Bon, parole, un langage philosophique. Il y a un langage utilitaire, différents langages. Quelle différence faites-vous entre un langage philosophique et un langage utilitaire? Parce que vous connaissez un peu ce que c'est que la pensée philosophique, et tout de suite vous distinguez le langage utilitaire et le langage scientifique. Il y a un langage amical. Et quand vous sortez ce langage amical à un niveau philosophique, ça ne va pas. Au niveau utilitaire non plus. Mon cher petit ami, vous sortez ça à n'importe qui, ça ne va pas. Langage amical. Et puis, ce langage symbolique, peut-être poétique, peut-être aussi divin, symbole divin. Alors, pour faire la distinction, vous comprenez, il faut voir la signification de ce symbole et voir si cette signification exprime directement la réalité. Et c'est Dieu. Je prends l'exemple très simple. Dieu est mon roc. Le roc, signification directe du roc. C'est une pierre. Alors, Dieu est-il une pierre? Non, pas possible. Donc, si je dis Dieu est mon roc, Dieu est mon rocher, je prends rocher dans une signification symbolique. C'est-à-dire une signification qui n'est plus directe, qui regarde les propriétés du rocher. Le rocher, le roc, c'est ce sur quoi je peux m'appuyer. C'est pas de l'argile. Quand vous mettez le pied après une grosse pluie dans un terrain argileux, vous ne dites pas « Oh, quel roc magnifique !» Non, ça ne vous vient pas à l'idée. Alors, vous prenez la propriété de la signification directe de la pierre qui, elle, évoque un attribut de Dieu. Donc, si on ne connaissait absolument pas ce qu'est Dieu, vous pourriez très bien confondre une parole directe et une parole symbolique. Si vous avez une certaine idée de Dieu, pas de danger. Mais de temps en temps, vous hésiterez. Et vous hésiterez surtout lorsque vous êtes en face d'un symbole qui implique, alors là j'entre dans une analyse beaucoup plus fouillée, une analogie propre ou une analogie métaphorique. Là, il faut la métaphysique. Quand je dis Dieu est mon roc, analogie métaphorique. Quand je dis Dieu est père, analogie propre. C'est toujours symbolique. Quand vous dites que Dieu est père, c'est symbolique. Quand vous dites que Dieu est comme une mère, c'est symbolique. Tout le langage est symbolique quand il regarde Dieu. Mais dans ce symbolisme, il y a des analogies propres. Et il y a des analogies lointaines, métaphoriques. Le roc, c'est une analogie métaphorique. Le père, c'est une analogie propre. Oui, c'est comme ça que s'est fait la théologie, petit à petit. Il faut une certaine familiarité avec le langage de Dieu. Et alors on découvre le langage symbolique, plus ou moins d'analogie propre ou métaphorique. Et on distingue là tout de suite le vrai théologien du faux théologien. Quand vous parlez, par exemple, de l'humilité de Dieu, je prends ça, l'humilité de Dieu. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Or, parler de l'humilité de Dieu, c'est un langage métaphorique. Dieu est amour. Et l'amour est au-delà de l'humilité. L'humilité, c'est une vertu qu'on acquiert difficilement parce que psychologiquement, l'orgueil est antérieur à l'humilité. Vous naissez avec ce patrimoine lourd à porter qu'en représente le péché originel. Ce patrimoine lourd, très lourd. Et le péché originel vous met une pente psychologique à l'orgueil. Ça, c'est sûr. Et vous devez lutter avant d'acquérir l'humilité. Alors, on ne peut pas dire au sens strict que Dieu est humble. Mais on peut dire, par exemple, Dieu, étant donné son amour, s'efface devant le Fils. J'aime mieux dire les effacements de Dieu. Mais les effacements de Dieu, c'est aussi métaphorique. C'est sûr. Dieu ne s'efface pas. Il n'y a pas un voile qui fait qu'il s'efface. Non, Dieu ne s'efface pas. Le voilement de Dieu, c'est métaphorique. Tout langage à l'égard de Dieu est symbolique, très souvent métaphorique. Et de temps en temps, analogie propre. Quand on dit que Dieu est sage, analogie propre. Vous voyez, alors ça, c'est petit à petit qu'on acquiert ça. Toute la philosophie, toute la métaphysique est faite pour ça. Pour que la théologie scientifique arrive à discerner les métaphores de l'analogie propre. Et ça, c'est le propre de la théologie scientifique. Saint Thomas. Avant Saint Thomas, il y a des mélanges. Après Saint Thomas, plus le droit de mélange. Mais les mélanges recommencent. Comment expliquez-vous que le thème du péché originel, sujet traité longuement et touchant l'être dans son fort interne, n'ait été évoqué à aucun moment de la séance appelée Carrefour? L'être humain aurait-il été trop fortement touché dans son orgueil personnel? Oui, je comprends que le jeu originel, c'est capital. Je vais en parler tout de suite, ne vous inquiétez pas. J'explique tout de suite le jeu originel pour apaiser. Le péché personnel n'est pas transmis comme péché. Il y a des transmissions, on le sait très bien. Un alcoolique a quelque chose qui passe dans le sang. C'est sûr. Certaines maladies se transmettent d'une manière dispositive. Disposition dans le corps. Mais pas le péché. N'allez pas dire, ah, que voulez-vous, excusez mon orgueil, j'avais un père terriblement orgueilleux. Si vous aviez un père terriblement orgueilleux, vous auriez dû être très attentif à ne pas l'être. Parce que vous aviez une manifestation visible que ce n'est pas très agréable pour son épouse, pour ses enfants. Donc voyez bien. Le péché personnel ne se transmet pas. Alors, il y a un mystère. Et je vous dis tout de suite, c'est un mystère. Donc, vous ne le comprendrez pas. Et moi non plus. Un mystère qui est affirmé pour nous d'une manière explicite dans le Concile de Trente. Dans les carrefours, si vous voulez, vous demanderez qu'on vous lise le texte. Parce que c'est beau de l'avoir entendu une fois dans sa vie, quand même. Ça fait partie de la doctrine chrétienne. On n'a pas le droit de ne pas de dire non. Immédiatement après le Concile, Vatican II, il y a eu une session théologique de théologiens se réunissant à la grégorienne, le sujet, le péché originel. Et le pape a tout de suite écrit à ces théologiens en disant « Très bien !» de traiter le péché originel. Mais n'oubliez pas que vous n'avez pas le droit de changer substantiellement la nature du péché originel telle qu'elle a été définie par le Concile de Trente. Vous pouvez essayer de le présenter d'une manière qui soit plus proche de la mentalité contemporaine. Et surtout de la mentalité scientifique contemporaine. Mais vous n'avez pas le droit de diminuer la vérité. Bon, alors, que dit le Concile de Trente? Le Concile de Trente qui résume l'enseignement de saint Thomas. Quand vous regardez ce que dit le Concile de Trente et que vous regardez saint Thomas après, ben si on avait le temps, on ferait ça. Ce serait très intéressant. Alors ce serait quelque chose, évidemment, beaucoup plus technique, mais très intéressant. Lire le Concile de Trente et regarder la somme théologique de saint Thomas sur le péché originel. C'est exactement ce que dit saint Thomas. Rien changé. Et saint Thomas donne l'enseignement des pères de l'Église. Et voyez pourquoi le Concile de Trente a dû agir comme ça, parce qu'entre deux, il y avait eu Luther et Calvin, la réforme. Et le Concile de Trente a remis explicitement la tradition des pères et celle de saint Thomas. Alors, que disent les pères de l'Église? Que dit l'enseignement explicite de l'Église dans le Concile de Trente? Tous les descendants d'Adam et Ève sont nés dans le péché. C'est dit dans l'Écriture, saint Paul le dit. Nous sommes nés dans le péché. Dans le livre de Job, c'est dit. Dans le psaume 50, c'est dit. Nous sommes nés dans le péché. Quand on dit qu'on est né dans le péché, ça ne veut pas dire que nos parents ont péché en nous concevant. Tout à fait faux, ça. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Je dis ça, c'est parce que de temps en temps, ça m'a été dit. Alors, je dis, il y a des originaux qui comprennent mal la doctrine de l'Église. C'est que nous sommes nés dans le péché. Pourquoi ? Indépendamment de la volonté de nos parents. Indépendamment de leur sainteté. Nous sommes nés dans le péché parce que nous descendons d'Adam et Ève. Et ça, l'Église y tient beaucoup. Nous descendons tous d'un seul couple. Pie XII l'a répété avec beaucoup de force dans une encyclique. Je ne sais plus laquelle exact, vous savez le titre. Dans les encycliques à propos de l'évolution. Je pourrais vous retrouver pour la donner exactement. C'est très net, c'est l'enseignement de l'Église. Donc vous n'avez pas le droit de dire « Ah, mais scientifiquement, on peut dire qu'il y a plusieurs couples. » D'abord, la science ne dit rien de sûr là-dessus. J'ai demandé aux plus grands savants, parce qu'il faut demander ça toujours aux plus grands savants, pas des petits, parce qu'ils subissent des influences apologétiques. Il faut regarder les grandes revues scientifiques et parler aux grands savants. Ce sont des hypothèses. Et j'ai entendu des meilleurs savants dans ce domaine dire la science incline sur l'unité du couple. Surtout ceux qui sont pour l'évolution. Parce que c'est déjà tellement invraisemblable, ce passage de l'animal à l'homme. Et si je prends la position de l'Église, c'est net. Donc l'Église nous demande l'unité du couple. Et cette unité du couple, c'est Adam et Ève. Adam et Ève ont reçu de Dieu une grâce très particulière, très unique. Je vous ai déjà dit qu'Adam et notre grand-mère Ève et notre grand-père Adam, parce que c'est un grand-père, hein, c'est quand même un titre de dignité d'avoir comme grand-père Adam, comme nous l'avons tous, pas de danger de s'enorgueillir, n'est-ce pas ? Nous avons tous le même. C'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose de commun. Lointain, mais il y a quelque chose de commun. Entre nous tous. On peut s'appeler frère, on peut s'appeler sœur, chose de commun. Vous comprenez qu'Adam et Ève ont pris une signification toute nouvelle le jour où la révélation a montré que le nouvel Adam, c'est le Christ. Ah, ça! Voyez, le flux et le reflux. D'Adam à Jésus. De Christ à Adam. Toujours faire les deux. Jésus jette une grande lumière sur Adam. Pour qu'on ait dit que Jésus soit Adam. Voyez le langage symbolique. C'est évident que Jésus n'est pas Adam. Mais Jésus joue pour l'Église, pour l'humanité, un rôle analogue à Adam pour tous les hommes. Connaissance symbolique, analogique, d'analogie propre. Jésus est le chef. Il est le roi de l'Église et de toute l'humanité. Dans l'ordre de la grâce. Et la nouvelle ère, c'est Marie. Ceci n'est pas dit dans l'Écriture, mais ça a été dit très très vite. Saint Irénée, disciple de Polycarpe, disciple de Jean. C'est dans la ligne directe joannique. Et pour l'église de Lyon, pour l'église qui est à Lyon, c'est très important. Parce qu'on est joannique si on veut être de l'église qui est à Lyon. C'est pour ça que la Providence nous a amenés ici, alors qu'on ne voulait pas, comme ça, mené par le bout du nez. La première fois qu'on a vu ici ce lieu, c'était le père Philippe Marie, quand il est revenu, il m'a dit, surtout pas à Saint-Jodard, jamais à Saint-Jodard. Effrayant, la Providence a obligé. C'est quand même curieux ces choses-là. Bon. Le Christ est le chef dans l'ordre de la grâce. Adam, il est le premier, le chef. Non pas dans l'ordre de la grâce, mais dans l'ordre de la nature humaine. Il est le premier. C'est ça que nous avons beaucoup, beaucoup de peine à comprendre. Parce que nous sommes tous marqués, imaginativement, a priori, par le chêne de l'évolution. Et dans le chêne de l'évolution, Adam est nécessairement un pauvre type. Que voulez-vous ? Il ne peut pas être autrement. L'animal n'est pas très loin, lui. Et l'animal, lequel ? Heureusement qu'il a disparu. Parce qu'on dirait autrement, on vous appellerait toujours par cet animal. Va donc, c'est ton grand-père. Alors, cet animal a disparu. Selon le schéma évolutionniste, nous avons beaucoup de peine de comprendre qu'Adam, c'est un prince. Prince de l'humanité, chef de l'humanité, créé par Dieu pour être le responsable de toute la nature humaine. C'est quand même quelque chose, hein ? C'est un grand bonhomme, c'est quelqu'un, Adam. Vous voyez, ça ne peut se comprendre que l'analogie avec le Christ. Ici, c'est dans l'ordre de la nature humaine, donc dans l'ordre de la procréation. Et le Christ, c'est dans l'ordre de la recréation. Vous voyez, tout le problème que nous voyons, c'est entre Adam et Adam. L'origine. Et la re-origine, l'origine nouvelle, la super-origine, c'est la super-origine le Christ. Au-dessus, l'origine nouvelle, celle de la grâce. Tandis qu'Adam, c'est l'origine première, l'origine cachée, perdue. Bon, une fois que vous avez compris ça, et ça... C'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Vous ne pouvez pas modifier ça. Impossible. Autrement, vous ne comprenez plus la parole de l'Écriture que le Christ est le nouvel Adam. crois ça capital, vous voyez. Vous purifiez de tous ces chaînes qui viennent de l'évolution et qui nous ont plus ou moins touchés. Comme l'évolution ne nous dit rien de certain, c'est purement hypothétique, supprimez tous ces chaînes. N'ayez aucun a priori. Et comme vous êtes dans la foi, vous regardez tout de suite le Christ. Et par le Christ, vous comprenez Adam. Et je dis bien, par le Christ, vous comprenez Adam. Adam n'a de sens pour nous que par rapport au Christ. Alors, vous voyez, quand un scientifique se met à parler d'Adam, non, c'est complètement équivoque. Complètement, mais totalement. On ne parle pas de la même chose. On parle de tout à fait de choses totalement différentes. Il faut être très attentif à ça. Bon, on comprend Adam dans la lumière de Jésus, dans la lumière du Christ. Il est donc chef de file. Dieu l'a créé dans un état de grâce, la grâce de justice originelle, avec ce privilège d'être le responsable de toute l'humanité. Et Ève, son épouse, est aussi responsable de toute l'humanité. Puisque elle est l'épouse d'Adam. Et que l'humanité, il y a un amour d'amitié qui les unit. Donc il y a une co-responsabilité. Au sens très très fort. Ceci fait comprendre que par sa faute d'orgueil, Adam perd la grâce. Il perd la grâce. Et un déséquilibre comme conséquence de cette perte de grâce qui va se réaliser en lui entre l'esprit et la matière, entre l'intelligence et l'aspect sensible. Un déséquilibre. Et comme il ne perd pas son privilège d'être le chef de l'humanité, ce déséquilibre fondamental, conséquence de la faute première d'orgueil, va se transmettre. Et ce qui est le plus, c'est que Dieu, dans sa sagesse, veut que ce déséquilibre ne soit pas seulement marqué sur le corps, mais soit aussi marqué sur l'âme. Qu'il y ait une faute originelle de nature, conséquence de cette faute première d'orgueil. Nous naissons donc. Nous sommes nés avec, sur l'âme, dans mon âme immortelle, dans mon âme spirituelle, avec une tare. J'en peux rien, et vous non plus. C'est pour ça que c'est jamais drôle à regarder. Il faut le faire. Ça fait partie de notre foi. Dans notre âme spirituelle, nous sommes nés avec une faute, culpa, qui n'est pas personnelle, qui est une faute de nature. Et donc, on dira que c'est une tare qui me coupe de Dieu, qui me sépare de ma finalité propre. Et cette faute a une répercussion sur ma nature humaine, sensible, corporelle, ce sont les trois concupiscences. Les trois concupiscences dont parle Saint Jean dans sa première épître, chapitre 2. Mais à travers toute l'écriture, on le trouve. Mais c'est là où c'est dit de la manière la plus explicite. Donc Saint Jean, chapitre 2, verset 15 et suivant. Les trois concupiscences. Alors, vous voyez, ça c'est un fait. Voilà ce que nous devons croire. Et on ne demande pas notre avis. Hein. Enseignement traditionnel de l'Église. Enseignement que nous devons essayer de comprendre. Alors, saint Thomas servira d'une analogie pour nous aider à saisir comment nous, qui ne sommes pas coupables, nous naissons avec cette faute de nature, cet art héréditaire. On est marqué d'un sceau, descendant d'Adam. Il faut passer la douane. Descendant d'Adam. Et ça sur l'âme, avec les trois concupiscences. Comment expliquer ça? Alors, saint Thomas, en théologien, va se servir. Le Christ est chef. Chef de l'Église. Et on a l'analogie du corps mystique. C'est en ce sens-là que la plénitude de grâce du Christ, on la trouve présente dans chacun d'entre nous. De sa plénitude, nous avons tous reçu. Grâce sur grâce. Comme c'est une plénitude, c'est grâce sur grâce. On n'arrivera jamais à épuiser la plénitude de grâce du Christ. C'est une plénitude infinie. Corps mystique. Nous sommes liés, chacun d'entre nous. Nous sommes un membre du Christ. Nous sommes reliés à la tête. Et nous participons à tous les mérites de la tête. Toute l'activité sacerdotale de Jésus, elle est à nous. C'est en ce sens-là qu'on est tous prêtres. Parce que on est liés au sacerdoce de Jésus. Alors, toujours dans la même lumière, dans la pensée de la sagesse de Dieu, il y avait comme un corps, non pas mystique ici, mais un corps humain, dont Adam est la tête, le chef, et nous les membres. Nous sommes en liaison vitale, substantielle, avec Adam. Nos parents font partie de cette descendance. Et ils ont été comme un noyau intermédiaire, un instrument qui ont transmis l'espèce humaine. La nature humaine, comme telle, elle échappe au pouvoir de chacun des membres. Seule la tête avait un certain pouvoir. Une conception qui est très difficile, qui est théologique, hein, elle n'est pas philosophique. Philosophiquement, je ne pourrais pas dire ça. Mais c'est à partir du corps mystique que je conçois ça. Nous sommes les membres d'Adam. Vous n'y pensez pas beaucoup, hein. Les membres d'Adam et les membres d'Ève. Et quand on verra Adam et Ève, on comprendra ça. Subitement, dire, mais j'avais jamais compris. Je ne dis pas qu'on demandera pardon à Adam à ce moment-là, mais parce que ce sera dépassé. Mais on verra cette chose inouïe, qui a une unité de l'espèce humaine, de la nature humaine, qui est beaucoup plus forte qu'on peut le penser. Elle est souterraine. Dans la chair et le sang. L'âme est créée directement par Dieu. Et par le corps, vous êtes unis à toute cette postérité. Pas seulement l'atavisme, hein. L'atavisme, c'est peu de choses. très peu de choses, très superficielles, comparativement à cette unité du corps humain, qui est beaucoup plus forte. Vous voyez, la Tavie, c'est le petit ruisseau. Il y a une petite fleur sur le ruisseau. Et la petite fleur tombe dans le ruisseau et on la retrouve un peu plus loin. C'est ça, l'atavisme. Votre grand-arrière-arrière-grand-père avait, vous voyez, des yeux un peu bridés. Et vous le retrouvez dans Petit-Fils. Vous savez, des choses comme ça, dans le nord de la France, il y a quelques années. On a rappelé, je le sais, parce qu'on me l'a dit, on avait fait des études là-dessus. Une mère qui met au monde un mulâtre. Entre les deux. Oh, c'était une femme remarquablement vertueuse, dont le mari était absolument comme les autres, de son village. Alors on a cherché la 8e génération. Curieux. Alors l'autre génération était partie, et puis il y avait eu un arrêt. Il y avait une souche, 8e. C'est le petit ruisseau, la petite fleur. Hein. La petite fleur violette qui a retrouvé 8e génération. Là, c'est le grand fleuve, pas le petit ruisseau. Corps humain, lié à Adam. Alors, Saint Thomas prend tout simplement cette comparaison. Quand la main se sert d'un poignard pour tuer quelqu'un, la main est responsable du meurtre. Mais ce n'est pas la main qui l'a voulu, c'est celui qui l'a décidé. La main a exécuté. Et dans certains pays, on sait très bien, si vous avez tué quelqu'un avec le poignard, on vous coupe la main. Punition. On punit la main. Parce que la main était l'instrument. Il y a une unité morale à travers tout l'être humain. Ça, c'est sûr. On a mal à son petit doigt de pied. Et tout le corps en souffre. Si le mal est très fort, j'arrive plus à penser. C'est curieux, hein? Pourtant, c'est votre doigt de pied, c'est pas votre pensée, c'est pas votre tête. C'est mal. J'ai tellement mal, j'arrive plus, on ne peut plus. Il y a une unité substantielle de ce corps humain. Alors, à ce moment-là, on comprend comment la tête ayant péché, tout le corps est infesté. Et l'âme créée par Dieu, elle est pure. Le péché ne vient pas de Dieu. Mais l'âme, dès qu'elle informe le corps, est infestée de ce premier péché. Oui, ça n'explique rien. C'est une analogie qui montre que ce n'est pas contradictoire. Oui, c'est possible. Et de fait, c'est ce qui est. Il y a une unité vitale dans la race humaine. Vous voyez, les anciens philosophes étaient beaucoup plus sensibles à ça que nous. Nous sommes terriblement individualistes. Et on arriverait à croire qu'on n'a rien à recevoir de nos ancêtres, de nos parents, rien. Et quand on vous dit, mais quoi, c'est... on est furieux contre le grand-père ou le grand-oncle, qui était un ivrogne, et dont on en paie un peu les conséquences. On est furieux de ça. On dit, bah oui, c'est très bien. Je paie la dette. Il n'a pas payé entièrement, lui, alors. Je continue. La facture demeure. Et on continue de payer la dette d'Adam. Fameux, hein. On continue. On reçoit de lui la nature humaine. Il y a quelque chose. Encore une fois, dites-vous bien, c'est un mystère. Hein? Je ne vous l'explique pas. Mais je vous donne l'analogie qui peut nous faire comprendre l'unité de ce tout. Là, il y a une petite analogie qui nous aide. Les anciens comprenaient qu'en nous, nous avons un certain droit sur ce que nous sommes comme individus. Vous voyez, ce que je puis dire sur notre ascèse, par exemple, l'ascèse de la nourriture, vous pouvez maigrir et devenir un boulot. Si vous aimez la spiritualité du boulot, au contraire, vous pouvez grossir, c'est-à-dire le petit tonneau. Si vous aimez la spiritualité du tonneau, on a une certaine domination sur son corps en tant qu'individu. Évidemment, il y aura la grand-mère qui dira « Ne maigris pas tellement, tu vas tomber malade. » Bon, c'est égal, je veux le style. C'est ça. Alors, on voit très très bien comment il y a des points de vue différents sur la communication de l'espèce humaine. Dans la procréation, les parents ne peuvent pas dire « ce que je voudrais, c'est qu'ils ressemblent à ce très grand génie, notre arrière-grand-père. » On ne l'a pas connu, mais c'est un génie. On voudrait tellement que notre petit enfant soit un grand génie. Science voudrait bien le faire. La science prétend qu'elle va pouvoir faire que on désire un garçon, on aura un garçon. On désire une fille, on aura une fille. Le pouvoir qu'on a, les pouvoirs des parents sur la procréation, sur la nature humaine, ça leur échappe. Les parents engendrent sans savoir très bien ce qu'ils font. Ce qu'ils font au point de vue du fruit, au point de vue de l'enfant. L'enfant aura normalement la nature humaine. Mais la nature humaine, est-ce que vous avez un pouvoir sur la nature humaine? Non. C'est un fait. Vous êtes comme ça. Vous avez atteint telle taille. Vous avez atteint tel volume. Vous pouvez arriver à migrer, mais la taille, c'est plus difficile déjà. Vous avez tel type d'intelligence, pas commode à changer. Allez voir un homéopathe en disant « Je voudrais que mon intelligence devienne un tout petit peu plus artistique. » Difficile à changer. Vous avez très peu de volonté. Arrivé à 20 ans, commode. On peut, un peu. Notre nature humaine, vous savez, et encore là, c'est les effets de la nature humaine qui regardent une éducation. Notre nature humaine, elle nous est imposée. Je voudrais être un ange. Je ne peux pas. Je suis un être humain. La nature humaine, vous voyez, le corps humain et la dépendance à l'égard d'Adam. C'est très curieux. C'est le fondement, vous voyez, de la philanthropie. Nous sommes tous de la même race humaine. Tous. Donc nous devons nous aimer et nous aider et nous entraider. Et pas faire que l'homme soit pour l'homme un loup. L'homme soit pour l'homme un brigand. Non. Nous avons tous les mêmes fragilités. Nous avons tous des qualités semblables. Pas grand changement. Vous voyez, le cocktail qui implique des ingrédients multiples et divers est toujours à peu près le même. Le mélange. Intelligence, sensible, imaginatif. Pas relevé ça. Vous voyez, le péché originel Alors, c'est là où se pose le grand problème. Qui peut pardonner le péché originel? C'était la grande, grande question des théologiens. Parce que ça touche la nature humaine. Pas l'individu, la nature humaine. Seul le chef de la nature humaine pouvait, par son péché, faire que toute la nature soit dans un état nouveau, un status naturae, un état nouveau, qui était un état de pécheur. Nous sommes nés dans un état de pécheur. Et nous n'en pouvons rien. Alors c'est là où nous entrons dans le grand problème. Dieu a promis un sauveur. Nous l'avons vu dès le début. La descendance d'Ève va écraser la tête. Et puis surtout, si nous regardons à partir du chapitre 12 de la Genèse, Abraham. Il lui promit un sauveur. D'Abraham à Zacharie, d'Abraham à Marie, il est promis un sauveur. On ne dit pas plus. Un Messie qui doit venir être sauveur de l'humanité. Dans son état de déchéance. Et c'est toute l'écriture, hein, au fond. Toute la Bible nous montre que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, ne peut pas laisser son chef-d'œuvre dans cet état de détresse. Il ne peut pas laisser son chef-d'œuvre tellement abîmé. Nous sommes fêlés, tous, plus ou moins. Quand il y en a un de plus, ça se voit, ça se manifeste. On est tous un peu plus, un peu moins. Celui qui l'est moins arrive à cacher ses fêlures. Celui qui l'est plus ne cache pas ses fêlures. Donc c'est de l'ordre de la manifestation. Évidemment, vivre en communauté, c'est très gênant quand tout le monde manifeste ses fêlures. C'est très gênant, les grosses gueules, vous voyez. Mais on est tous un peu, quoi, un peu fêlés. Conséquence du péché, tous, conséquence du péché. Dieu ne veut pas laisser son chef-d'œuvre fêlé, il veut le reprendre. Il le promet tout de suite, il le promet à Ève. C'est très beau que ce soit Ève, et non pas Adam. C'est la descendance d'Ève. Et non pas la descendance d'Adam. Alors que la descendance du péché, c'est Adam. Et la descendance de la promesse, c'est Ève. C'est très étonnant, ça. Alors, de fait, Dieu vient sauver l'humanité. Par le Christ. C'est un fait pour le croyant. À travers les multiples alliances, alors notez toutes les alliances. Je ne vais pas toutes les noter, mais faites-le pour vous. Les alliances. Première alliance. Ève, promesse à Ève. Deuxième alliance, Noé. C'est vrai. Troisième alliance, Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Troisième, c'est alliance avec les pères. Quatrième alliance, Moïse. Alliance avec le législateur. Cinquième alliance. C'est dit dans cette préface merveilleuse. Dieu a fait l'alliance avec successivement toutes les alliances. Cinquième alliance avec les rois, les trois rois. Sixième alliance, les prophètes. Il faudrait mettre les prophètes avant, ça n'a rien. En réalité, c'est cinq les prophètes et c'est six les rois. L'alliance avec les prêtres, ça fait partie de l'alliance avec Moïse. C'est la conséquence. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Puis enfin, en dernier lieu, le Christ. Septième position. Le Christ. Tout est repris dans le Christ. L'alliance avec Jésus. Cette alliance, qu'est-ce qu'elle est ? De fait, c'est à travers les évangiles que nous découvrons que cette alliance s'est faite dans le Christ à la croix. Jésus vit son heure, l'heure de Jésus, selon saint Jean, c'est la croix. Et la croix, c'est la nouvelle sagesse. Et la croix, c'est la recréation. Vous voyez, toute la préparation, toute la longue préparation d'Ève à Jésus crucifié. À Marie, la nouvelle femme, la nouvelle Ève, au pied de la croix. Compassion. Pour que cette recréation soit plus parfaite. Marie va